La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'était un joli garçon aux cheveux blonds, un romantique qui aurait voulu, adolescent, épouser les maîtresses de son père et, jeune homme, faire un mariage d'amour. Sade fut également, on le sait, un libertin qui voulait jouir de la vie, la dévorer, vivre entre le théâtre et le plaisir, et c'est ce qu'il est parvenu à faire jusqu'à ce qu'on l'enferme à l'âge de 37 ans. Et pour 27 années au total, 27 années entrecoupées par une période de liberté au moment de la Révolution. C'est d'abord par lettre de cachet sur ordre de sa belle-mère qu'il fut jeté en prison, puis c'est Napoléon qui l'enverra à l'asile de Charenton, où il est mort après une vie de souffrance, mais pas toujours de tristesse, à l'âge de 74 ans. Cette vie, Stéphanie Genand nous l'a racontée hier au cours d'une émission à retrouver en téléchargement. Demain, nous évoquerons la question du rapport de Sade avec les femmes en général et sa femme en particulier, d'abord avec Florence Lautry, puis avec Cécile Gilbert. Enfin, jeudi, nous nous demanderons pourquoi le XXe siècle a pris Sade au sérieux. Autrement dit, nous évoquerons la lecture qu'on fait de ses textes, les intellectuels de l'après-guerre. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour parler de ça dans son siècle, de quelques-unes de ses œuvres et aussi de sa conception de l'amour, nous sommes avec Michel Delon, spécialiste du siècle des Lumières et de la littérature libertine, auteur notamment du Savoir-vivre libertin aux éditions plurielles en 2015. Il a également édité les œuvres de Sade en Pléiade avec la collaboration de Jean Deprin. Et puis on lui doit également l'article Sade, un athée en amour dans le volume collectif paru sous ce même titre en 2014 aux éditions Albin Michel. Bienvenue à tous dans cette compagnie des auteurs qui commence avec une analyse du désir sadien par l'écrivaine Annie Lebrun.
Il est le premier à voir aussi que autant est-il, il n'y a pas plus matérialiste que Sade, pas plus athée que Sade, mais il voit le principe excessif du désir. Pour lui, le désir est un principe d'excès. Et ce principe d'excès qu'il voit, qu'il rencontre dans la nature et qu'il voit aussi dans les phénomènes naturels, il se rend compte qu'il y a quelque chose en l'homme qui fait qu'il va falloir doubler la nature. Tout se passe comme s'il y avait une surenchère de la tête et du corps. Et il voit que le désir, dans son principe excessif, est indissolublement lié à l'imagination. Et c'est ça aussi le coup de génie de Sade. Et c'est une clé, c'est quelque chose de fondamental dans la dynamique du désir. Le désir renaît de son assouvissement, mais il ne renaît que aussi parce que l'imagination prend le relais. Parce que, comme je l'ai dit, le désir est la manifestation physique de l'infini en nous. Et c'est ça aussi que dit Sade. Or, il faut trouver l'infini. Donc ça, c'est une des très grandes aventures de la pensée, parce que c'est, est-ce que ma tête tient devant la violence qui m'habite? Est-ce que mon désir est à la hauteur de, par exemple, un volcan?
C'est quand ça laisse à désirer.
Bonjour Michel Delon.
Bonjour.
On vient d'entendre Annie Lebrun interrogée par Zoé Varier. Annie Lebrun, pour qui l'œuvre de Sade représentait une grande aventure de la pensée du désir, de la pensée du désir lié à l'imaginaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté, de tout cela?
Je crois, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il faut tout de suite distinguer l'homme Sade et puis ce dont parle Annie Lebrun, c'est-à-dire un écrivain, un poète du désir, un romancier de l'excès, et je suis assez d'accord avec elle. Elle n'aimerait pas que je dise assez.
Vous êtes complètement d'accord avec elle. Allez.
Pour ce qui concerne l'imagination. Dans ses textes, il explique que c'est un libertin qui dit ça à Juliette dans l'histoire de Juliette. Il lui dit « Vos fesses, là, sont belles sans doute ». mais celles que j'imagine, celles-là seules, sont sublimes. Hein, donc là, on voit tout de suite, on est dans un milieu où, semble-t-il, on peut tout faire, mais ce n'est rien par rapport à ce qu'on imagine. Mmh. Donc là, on est dans une construction à la fois poétique et intellectuelle, mais il faut commencer par distinguer l'homme Sade qui, dans sa vie, a été un aristocrate méprisant pour les prostituées dont il estimait que du moment qu'il les payait, elles avaient à subir les esters. Et
alors vous dites le contraire un petit peu de ce que disait Stéphanie Genant hier, qui du coup considérait qu'au fond, il y avait du respect à partir du moment où le jeu entre le marquis de Sade et les prostituées qu'il payait était très clair. Vous semblez dire autre chose.
Non, je parle. On est dans un univers d'Ancien Régime où la hiérarchie sociale, c'est même pas le mot hiérarchie, où les mondes sont tellement différents entre un noble lié par sa mère à la famille royale, hein, au condé, et d'autre part des pauvres filles qui n'ont absolument rien pour se défendre. Donc je pense qu'il n'y a pas de contrat possible entre eux.
Donc vous faites une lecture d'un Sade dominateur, d'un Sade profitant de son statut social notamment.
Dans sa vie, oui. Mmh. Hein? Mais très vite, il va être rattrapé, non pas par la justice du temps, parce qu'il a tel parent, le comte de Charolais, qui a fait bien pire que lui. Hein, et qui a toujours été pardonné par le roi. Lui, il est rattrapé par des contradictions de la société à l'époque, par les efforts de réforme de la justice, des parlements. Donc, je ne vais pas dire qu'il est victime, mais enfin, il est pris dans cet engrenage et il est réduit à l'impuissance, ce qui est la pire situation pour quelqu'un qui s'estimait par sa naissance, ayant tous les droits.
Mmh. Et à qui on apprenait aussi, à cette époque-là, qu'ils avaient tous les droits,
oui,
les aristocrates.
Absolument. Un autre biographe de Sade, Larry Bongi, a exhumé une lettre extraordinaire de la mère de Sade au lieutenant de police, Berrier. Elle lui dit « Vous avez arrêté mon cuisinier ». J'en ai absolument besoin, il faut le libérer. Je compte sur vous, Éléonore de Maillet, de Sade. Et semble-t-il, le lieutenant de police relâche le type qui avait violé un petit garçon. On est dans cet univers.
Alors, est-ce que vous diriez, Michel Delon, que Sade, c'est un intellectuel, comme le sous-entend aussi Annie Lebrun quand elle parle de la grande aventure de la pensée chez Sade? Est-ce que c'est d'abord un homme de lettres? Est-ce que c'est d'abord un libertin? Est-ce que c'est d'abord un intellectuel? Est-ce que c'est un philosophe?
Alors, dans les années, en 1760, hein, c'est un fils de famille qui a des goûts pour la littérature, son père déjà écrit. Hein, c'est une famille où une certaine pratique, on va pas dire de la littérature, mais des belles lettres, fait partie du standing social.
Hein. C'est donc un peu plus que ça quand même, c'est marqué de ça.
Oui, mais justement, là je dis au début de son existence de jeune noble. Et à partir du moment où il est poursuivi, où il s'enfuit en Italie. Hein, il fait ce voyage en Italie où, pendant un an, il va être un voyageur attentif, prenant des notes sur ce qu'il lit pour préparer ses voyages et espérant écrire un grand voyage d'Italie. Donc là, déjà, il devient quelqu'un de différent parce que il va comparer ses désirs avec, en France, et ce qui se passe en Italie. Il va découvrir les mœurs des anciens Romains. Il va, comme ça, être dans une situation de, oui, de comparaison, donc de réflexion critique. Mmh. Et puis alors, ensuite, à partir du moment où il est en prison, ses possibilités, quand même, où il devient fou, où il se transforme. Et là, il devient vraiment un écrivain, un philosophe, et je crois un grand écrivain.
Donc quelqu'un qui apporte une pierre à la réflexion philosophique, oui, et encore jusqu'à aujourd'hui.
Oui, de manière non conceptuelle. Hein, mmh. C'est pas un philosophe qui va, je crois, faire avancer la pensée en articulant un système cohérent, puisqu'il ne va écrire que des romans. Et dans ces romans, ces personnages tiennent des discours qui ne sont pas tous équivalents les uns aux autres. Ils ne sont pas réductibles à un système.
Alors, la vie du Marquis de Sade est contemporaine de celle des encyclopédistes, mmh. et c'est évidemment très important dans la perspective qui est la vôtre, puisque vous êtes historien des idées, spécialiste du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui permet l'émergence de Sade, au fond, au XVIIIe siècle ?
Alors, ce qu'il a de commun avec les philosophes des Lumières, c'est de relativiser la morale dominante, religieuse, de son temps. C'est l'époque des grands voyages autour du monde, des circumnavigations. Diderot va s'enchanter du fait que, il en rajoute un peu, mais il imagine qu'à Tahiti, la nouvelle Cythère, la sexualité serait totalement libre. Mmh. Bon. Donc il est évident que Sade lit tout cela et fait sienne cette réflexion.
C'est un homme moderne, c'est un homme de son temps.
Oui, 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 il y a aucun doute. Il est aux aguets de ce qui s'écrit. Il emprunte aussi à la frange la plus radicale des Lumières l'athéisme et le matérialisme. On peut arriver à expliquer l'apparition de la vie et le fonctionnement de l'univers sans faire intervenir ni un créateur, ni une finalité, ni un ordre dominant et obligeant à une vie correspondant à cet ordre.
Et alors, qu'est-ce que ça donne du point de vue de l'amour? Vous avez dirigé un ouvrage qui s'appelle, qui est sous-titré « Être athée en amour ». Sade, ouais. Un athée en amour, c'est ce qu'il était. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça raconte de la manière dont Sade voyait la relation amoureuse, de sa conception de la relation amoureuse?
Ouais. Alors, les philosophes des Lumières partent d'une morale utilitariste, c'est-à-dire chacun vit pour satisfaire ses désirs, mais l'intérêt bien compris veut que l'on établisse de bonnes relations, en particulier des relations amoureuses avec autrui. Alors, Sade, l'expression athée en amour, c'est une expression qu'on utilise à l'époque.
C'est pas son expression à lui, d'ailleurs.
Non, c'est pas une expression à lui. Hein, il a de très belles formules. Il invente le mot isolisme. Il utilise le terme principe de délicatesse qui justifie à peu près toutes les perversions. Hein, mais athée en amour est employé de manière négative pour critiquer ce qui serait un égoïsme total, empêchant toute relation au-delà du désir et de sa satisfaction immédiate. Mmh. Alors, dans les romans de Sade, nous avons des personnages qui défendent ce point de vue, et donc qui justifient leur violence, mais qui, eux, pourtant, reconnaissent qu'il y a, entre grands libertins, il y a une reconnaissance. Donc, par exemple, Juliette, hein, qui est la sœur parfaitement libertine et criminelle, Juliette va raconter que son histoire aboutit à un trio. Elle vit avec un homme, un amant et une maîtresse. Et la relation entre eux est de l'ordre de l'amour. Donc, il ne nie pas la possibilité qu'il y ait cet amour, mais il est réservé à des êtres forts, sinon, c'est de l'illusion.
Mais alors, cet athéisme en amour, est-ce que c'est tout simplement une vision qui consiste à ne pas confondre le désir, qui doit être satisfait, oui, physiologique, quoi, et puis l'amitié qui fonde les couples? Est-ce que c'est aussi simple que ça, la vision de Saad,
Michel Delon? Non, puisqu'on a commencé sur cette particularité de l'être humain, qui fait qu'il est créé par la nature et qu'en même temps, il est en concurrence permanente avec la nature et que son moteur est une imagination qui le force à aller tout le temps au-delà. Donc, cette amitié, elle ne peut pas ignorer le désir et elle est toujours, chaque matin, sujette à caution et à renversement.
Content et glorieux de mon épicurisme, je prétends expirer au sein de l'athéisme et que l'infâme Dieu dont on veut m'alarmer ne soit conçu par moi que pour le blasphémer. Oui, vaine illusion, mon âme te déteste. Et pour t'en mieux convaincre, ici je le proteste. Je voudrais qu'un moment tu pusses exister pour jouir du plaisir de te mieux insulter. Quel est-il en effet ce fantôme exécrable, ce jean-foutre de Dieu, cet être épouvantable, que rien n'offre au regard ni ne montre à l'esprit, que l'insensé redoute et dont le sage rit, que rien ne peint au sens, que nul ne peut comprendre, dont le culte sauvage en tout temps fit répandre, plus de sang que la guerre ou Thémis en courroux, ne purent en 1000 ans en verser parmi nous.
Compagnie des auteurs sur France Culture. Alors on vient de l'entendre dans cet extrait de La Vérité lu par Valérie Lang. Saad était d'un athéisme total et en amour aussi. Et pourtant, il y a dans son panthéon, dans ses admirations, Pétrarque, qui lui était davantage chrétien en amour, si l'on peut dire. Il y a même une histoire qui est assez belle, qui est l'histoire de cet amour de Pétrarque pour Laure de Neuve, qui était visiblement, alors est-ce une légende, est-ce vrai, apparenté à la famille de Saad. C'est l'oncle de Saad, l'abbé, qui lui n'était pas tellement, qui était un peu libertin
totalement,
qui s'était beaucoup intéressé à cette question. Alors, pour l'historien des idées que vous êtes, c'est intéressant parce que ça permet aussi de mieux comprendre Saad, de voir en quoi il y a chez lui un syncrétisme, un mélange entre un certain pétrarchisme et puis un amour complètement athée, un amour complètement libertin, Michel Delon.
Une toute petite parenthèse, on a entendu ce texte qui est un poème en alexandrin, rimé. C'est assez étonnant la façon dont Saad arrive à introduire l'argumentaire le plus scandaleux à cette époque dans la forme totalement normée de l'alexandrin.
Ça, c'est symptomatique de l'écriture de Saad, d'ailleurs.
Oui,
de
voilà.
Toujours chercher une forme existante, voire une forme classique,
ouais,
pour dire les choses les moins classiques.
Ouais. Alors, pour en revenir à Pétrarque et à Laure, la famille de Saad se vante, en effet, d'avoir dans son arbre généalogique Laure de Neuve, qui serait devenue Laure de Saad. Cela se passe quand même au XIIIe siècle, ça semble tout à fait plausible. Et l'abbé, le frère du père de Donatien, a consacré une grande partie de sa vie à écrire des mémoires sur la vie et l'œuvre de Pétrarque, qui sont trois beaux in quarto, où on a toute l'histoire des amours de Pétrarque et où il introduit, ça c'est assez intéressant d'ailleurs pour l'histoire même de la biographie, il introduit les sonnets de Pétrarque à l'intérieur comme des étapes du cheminement biographique du poète. Et Sade a gardé toute sa vie son exemplaire du livre de son oncle, et qu'il a annoté même, et c'est-à-dire qu'il l'a eu en prison à Vincennes, à la Bastille, et même à la fin, à Charenton. C'est un texte qu'il a toute sa vie gardé.
Et en quoi c'est important finalement? En quoi ça nous permet de mieux comprendre du coup le rapport de Sade à l'amour?
Quand il est en prison, il raconte même à sa femme qu'il rêve que l'or lui apparaît et veut l'aider contre tous les méchants qu'il le persécute.
Donc là encore, c'est un Sade romantique, c'est un Sade amoureux qui aime cette histoire avec l'or de Neuve.
Nous voulons absolument que Sade soit totalement cohérent, monolithique. Or, il passe son temps, déjà dès son enfance, il a été élevé pendant une partie de son enfance en Provence par son oncle, qui est un abbé, qui a eu des fonctions importantes dans le clergé, et dont il voit très bien qu'il vit, il y a toujours une ou deux courtisanes dans le château de l'abbé. Donc il a suivi son oncle, il l'a entendu tenir des discours, et il l'a vu vivre différemment. Donc la notion d'unité de la personne, je crois, lui est totalement étrangère. Mmh. Moi, je me souviens déjà, quand j'étais adolescent, j'étais choqué lorsqu'on me disait « il faut que dans telle circonstance on se tutoie et dans telle circonstance on se vouvoie ». Ou ici même, il y avait des animateurs de radio qui me disaient « on se tutoie dans la vie, mais à la radio, on se vouvoie ».
Nous, on ne se tutoie pas dans la vie, je le dis tout à nos auditeurs.
Et j'avoue que ça m'étonnait toujours. Donc, a fortiori, il y a 2 siècles et demi, Sade est quelqu'un qui n'a pas besoin de ce type de cohérence. Mmh. Quand il s'adresse à sa femme, il va lui écrire des belles lettres d'amour, vous en parlerez demain, et par ailleurs, très souvent, il lui écrit des torchons d'une violence et où il est exigeant comme si c'était la dernière des servantes. Eh bien, il est comme ça.
Alors, ce que ça dit aussi quand même, cette histoire de Pétrarque jusqu'au libertinage, disons, du marquis de Sade, c'est aussi l'évolution de la désacralisation du sentiment amoureux au fil des siècles. On peut y voir, et ça fait aussi toute la modernité de Sade, on peut y voir un changement de rapport quand même des hommes et des femmes du 18e par rapport à l'amour. L'amour courtois s'est terminé aussi, donc ça c'est important quand même comme contexte.
Oui, mais on peut dire aussi que les êtres sont libres parce que leurs relations les regardent l'un et l'autre, ou les uns et les autres, et non pas une loi qui leur serait précédente et supérieure.
Mais l'homme dont vous parlez est un monstre. L'homme dont je parle est celui de la nature. C'est une bête féroce. Eh bien, le tigre, le léopard dont cet homme est, si tu veux l'image, n'est-il pas comme lui, créé par la nature et créé pour remplir les intentions de la nature? Le loup qui dévore l'agneau accomplit les vues de cette mère commune, comme le malfaiteur qui détruit l'objet de sa vengeance ou de sa lubricité. Oh, vous aurez beau dire, mon père, je n'admettrai jamais cette lubricité destructive. Parce que tu crains d'en devenir l'objet, voilà l'égoïsme. Changeons de rôle et tu la concevras. Interroge l'agneau, il n'entendra pas non plus que le loup puisse le dévorer. Demande au loup à quoi sert l'agneau. à me nourrir, répondra-t-il. Des loups qui mangent des agneaux dévorés par les loups, le fort qui sacrifie le faible la victime du fort. Voilà la nature, voilà ses vues, voilà ses plans. Une action et une réaction perpétuelle, une foule de vices et de vertus, un parfait équilibre en un mot, résultant de l'égalité du bien et du mal.
La compagnie des auteurs sur France Culture. On a perdu un petit peu le texte dans l'atmosphère. Quelle analyse vous en faites? C'était un extrait, vous l'avez reconnu évidemment, de Justine ou les malheurs de la vertu, lu par Valérie Lang, dans lequel on entend quand même que Sade, ou le narrateur de Sade, parce qu'il ne faut pas tout confondre non plus, semble faire la promotion de la loi du plus fort. Est-ce qu'il y a une éthique de Sade qu'on peut tirer finalement en extrapolant cet extrait?
Oui, ça correspond, ce qu'on a entendu là, hein, ça correspond à un matérialisme au front bas, enfin, pris au pied de la lettre. Il ne peut y avoir qu'un égoïsme généralisé, et donc chacun abuse de sa position. Mais en même temps, vous avez entendu dans ce texte, le libertin demande à Justine « changeons de rôle ». Donc là, on a une distance par rapport à cette loi de l'égoïsme général et la possibilité offerte à chacun de s'affirmer. Et à partir du moment où deux personnes qui se battent pour dépasser la simple loi de la nature se reconnaissent, alors... Un sentiment peut s'inscrire dans la durée.
Est-ce qu'on peut parler de libéralisme au sujet de Sade?
Alors, Non, écoutez, déjà, ce mot-là, vous vous rendez bien compte, même s'il apparaît au XVIIIe siècle, je ne sais pas très bien le sens qu'il faudrait lui donner en économie, dans la vie sociale.
Peut-être pas en économie,
en amour.
Mais disons, en effet, dans la vie sociale, c'est l'idée que chacun... irresponsable de lui-même et que dans la mesure où on ne porte pas préjudice à son voisin, on doit pouvoir faire ce qu'on souhaite faire.
Voilà.
C'est l'idée que les choses se régulent aussi par elles-mêmes.
D'accord. C'est pas la main invisible du marché, mais...
Il n'y a pas de marché, là. Enfin,
si,
pas
le marché
vraiment.
Des désirs.
Le marché des désirs, peut-être.
Oui, non, c'est sûr, ça, c'est la version positive possible qu'on va trouver, par exemple, dans la philosophie dans le boudoir, hein, où on a d'un côté cette version que j'appelle positive de la liberté revendiquée en amour par Sade, et d'autre part, on a aussi la violence à partir du moment où l'autre refuse de concevoir qu'il est libre. Donc à ce moment-là, on va s'acharner contre lui. Et il se met lui-même dans la position de victime.